Il y a peut-être un peu d'écho, on entend mal, mais ce que la foule scandait il y a exactement un an, c'est « Let's go Raptors », parce que oui, il y a un an, Toronto faisait vibrer la planète basketball et la planète Canada. Les effets se faisaient sentir au Québec de cette Raptor manie. C'est le 13 juin qu'ils ont été sacrés champions. Et il y a des milliers de partisans des Raptors qui se rassemblaient dans le Jurassic Park de Toronto, tout juste à l'extérieur de l'aréna, le centre Bell local, le Scotiabank Arena. Et aujourd'hui, un an plus tard, ben c'est évidemment très difficile d'imaginer des rassemblements semblables parce qu'on est en temps de pandémie, mais on va aller se promener dans ces beaux souvenirs avec Ray Lalonde. Salut Ray.
Salut Patrick.
T'étais là, toi, pour un des matchs de la finale l'an dernier.
Oui, écoute, j'avais rarement vu un événement comme ça. Patrick, j'en ai vu des centaines d'événements sportifs.
Et tu as travaillé pour la NBA, fait que tu en avais vu des matchs de la NBA.
Oui, oui, puis des finales NBA, dont certains avec Jordan puis les Bulls en 93, puis plus tard. Alors, honnêtement, les Raptors ont écrit l'histoire l'an dernier à cette date. Puis c'était un moment qui va marquer la génération de jeunes au Canada qui attendent impatiemment une Coupe Stanley d'une équipe canadienne qui n'est pas venue depuis que les Canadiens l'ont remporté en 93. Les Leafs, c'est 67. Les Flames, c'est quoi? C'est 89. Les Oilers, 90. T'sais, on n'a pas eu beaucoup de succès. On a eu deux séries mondiales des Blue Jays, 91-92, je crois. Mais les Raptors, ce qui nous ont servi l'an dernier, c'est comme un peu une renaissance moderne du succès du sport, puis comment ça réunit et rassemble les gens. Et en plus, c'était ciblé vers une génération de jeunes consommateurs qui sont passionnés de basketball, qui aiment la rapidité, le côté spectaculaire, Patrick, les points marqués, puis qui s'associent de plus en plus à cause des médias sociaux puis des plateformes à des stars mondiales du sport qui n'ont pas nécessairement besoin d'être originaire du Canada.
Dirais-tu que la NBA, c'est le sport qui ressemble le plus, je te dirais, là, à ce que seront les États-Unis demain en termes de composition, disons, ethnique là, des fans?
Oui, c'est un bon point parce que, honnêtement, parmi toutes les ligues sportives au monde, puis j'inclus le soccer de la Liga ou de la Premier League ou de la Bundesliga, honnêtement, il n'y a aucun sport. Tu sais, la NBA, c'est plus qu'un sport là, maintenant. La NBA s'est rendue une marque mondiale, global brand en anglais. Et c'est littéralement du divertissement, c'est du contenu, c'est toutes les plateformes possibles, c'est des joueurs provenant de vingtaines de pays, c'est des matchs diffusés dans 215 pays. C'est parce que c'est global. C'est en Afrique, c'est en Asie, c'est en Inde. Ils ont des œuvres caritatives, ils ont des cliniques, ils ont des matchs en pré-saison préparatoire qui font le tour de la planète. Il n'y a aucun autre sport comme ça. C'est un peu le Nike du sport pratiqué. T'sais, ou le ESPN du sport diffusé. Et ironiquement, ils sont tous en partenariat.
Bien, tous en partenariat. Et ça a explosé ensemble. Nike. Tu parles de Nike, le grand équipementier, les souliers. Moi, j'ai été fasciné dans la série documentaire de Last Dance quand on a vu que Nike s'est associé à Michael Jordan. Jordan ne voulait rien savoir de Nike à l'époque, fin des années 80. C'est une compagnie un peu ringarde. En s'associant à Jordan, ben quand la marque de la NBA a explosé dans les années 90, ben Nike a suivi.
Oui, ben Nike, Patrick, t'as une bonne mémoire de sport. Là. Tu vas te rappeler que Phil Knight avait littéralement fondé cette compagnie-là dans son garage. C'était un gars qui faisait des courses de fond pour l'Université d'Oregon.
C'était des souliers d'athlétisme.
Ben oui. Puis, tu sais, alors littéralement, c'était ça, le swoosh. Mais évidemment, lui, c'est devenu un peu le Steve Jobs ou le Walt Disney de l'équipement sportif. Nike, c'est une machine mondiale. Nike ne perd pas l'occasion de se mouiller même dans des causes politiques. Quand on souligne aussi leur effort avec Colin Kaepernick, Nike, c'est eux qui symbolisent un peu le sport marketing. Et Michael Jordan, c'est l'athlète qui a été le véhicule pour Nike. Puis aujourd'hui, les jeunes qui grandissent, puis même les joueurs de la NBA qui portent aujourd'hui l'équipement sous l'emblème The Jordan Brand, qui est une sous-division de Nike qui génère quand même 4 milliards de dollars de ventes par année.
Écoute, je magasinais pour mon fils des... évidemment, là, les marques, etc., là, les jeunes aiment bien ça, mais là, on magasinait sur Internet. Il trippait sur des équipements du Paris Saint-Germain, la grande équipe de foot française. Oui. Mais il y a le logo de Jordan sur certains, ouais, sur certains des manteaux, sur certains des chandails. Jordan, un joueur de basket, mais là, bang, on colle le logo sur de l'équipement de foot. Ça dit quelque chose sur le fait que sa marque est très, très puissante.
Ouais, ben écoute, Jordan, tu sais, les dernières années des Bulls, tu te rappelles du documentaire, il y a eu toutes sortes de chicanes par rapport aux joueurs qui étaient sous-payés, dont Scottie Pippen. Ben Michael Jordan, ce n'est qu'à ses deux dernières saisons que Jerry Reinsdorf l'a récompensé. Il a donné 33 et 36 millions de dollars en salaire, Patrick, en 1997 et 98, ce qui équivaut aujourd'hui à 52 millions de dollars US. Même aujourd'hui, il sera encore le mieux payé.
Il n'y a pas de plafond salarial, là.
Non, non, c'est pas ça. C'est que à l'époque, tu pouvais re-signer. Tu peux encore le faire, d'ailleurs. Okay. Quand un joueur se contrat dans la NBA, tu peux le re-signer sans presque limite. Mm. Donc, c'est ce qu'on appelle en anglais, là je rentre techniquement, ça s'appelle le Bird Clause, le Larry Bird Clause. Alors, tout ça pour dire que Jordan, il gagnait 3 millions toutes ces années, puis Reinsdorf l'a récompensé. Puis Nike, pendant ce temps-là, a continué de verser des sommes farabuleuses à Jordan. Puis aujourd'hui encore, Michael Jordan reçoit à peu près 125 millions de dollars annuellement de Nike via ses intérêts dans le Jordan Brand. Alors, il a beaucoup d'argent, c'est l'athlète de l'histoire du sport le plus riche, avec une valeur personnelle de plus de 2,1 milliards de dollars US.
Et parlant d'argent et de Michael Jordan, Jordan a annoncé avoir fait un don de 100 millions de dollars là, pour des programmes d'égalité raciale, 10 millions par année pendant 10 ans. La somme frappe l'imaginaire, mais ce qui m'a frappé aussi, Ray, c'est que c'est pas quelqu'un de très politique, Michael Jordan. Est-ce que tu as été surpris de le voir s'impliquer comme ça?
Bien, surpris, mais très heureux surtout, parce que, je vais dire dans le bon français québécois, il était temps. Parce que, tu sais, je comprends que Jordan, pendant toute sa carrière, a été très focusé, concentré sur ses performances, puis on a vu les résultats. C'est un gars assez particulier, intransigeant, dur avec tout le monde. Il est aussi toujours bien commercialisé, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'exemple qui a mené à des Tiger Woods, puis à des Roger Federer, puis à des Rafael Nadal, dans la commercialisation d'athlètes avec une marque. Alors, c'est rare qu'il se prononçait. Puis là, depuis des années qu'on voit LeBron James, qui lui a une prise de position sociale régulière, fréquente. Et dans son cas, lui, il a même fondé une école à Akron, dans l'Ohio, qui permet aux jeunes enfants défavorisés d'avoir des études complètes et se diriger vers les collèges américains par la suite. Mais Jordan, ce qu'il a fait en silence, il a quand même fondé et mis sur pied un hôpital à Charlotte, en Caroline du Nord, d'où il est originaire. Il fait des choses en silence, mais il prend pas de position publique. Mm. Alors, dans le cas de George Floyd, puis la tragédie il y a 10 jours, c'est la première fois qu'il s'implique de façon aussi personnelle. Et là, il a suivi aujourd'hui avec un geste d'une grande générosité qui suivait celle de Nike, qui, eux, ont engagé 40 millions pour 4 ans la semaine dernière.
Parlons de la différence entre la NBA et la NFL. Dans la NFL, il y a un gars, il y a un corps arrière très talentueux du nom de Colin Kaepernick. Il y a 4 ans, Kaepernick a décidé de protester contre la violence policière à l'égard des Noirs et il a mis le genou par terre pendant l'hymne national. Écoute, ça a été hyper controversé, il a été critiqué, il a été sorti de la ligue pour ça. LeBron James, qui est la grande vedette de la NBA, une autre ligue sportive, là, lui aussi, il a protesté contre ça. Lui aussi, il a eu des mots très durs pour le profilage racial de la police.
Oui.
Et là où Kaepernick a payé un prix, pas LeBron James, qu'est-ce qui explique la différence entre les deux ligues?
Deux mentalités. D'abord, deux commissaires différents. Adam Silver, c'est un partenaire avec la NBA. Et Roger Goodell, c'est le dirigeant de la NFL.
Okay.
Deuxièmement, les propriétaires de la NBA sont engagés pour le succès collectif et l'enrichissement complet de la NBA. Pas juste en argent, là, mais l'exploitation de leur opportunité, puis c'était le mandat de David Stern de toujours redonner à la communauté. Les joueurs de la NBA achètent ça. Dans la NFL, c'est beaucoup plus une espèce de pas de combat, mais ce sont des adversaires, les propriétaires et les joueurs. C'est jamais facile, les conventions collectives à négocier. Les propriétaires de la NFL, je suis obligé de dire, un petit peu plus républicain, un petit peu trop conservateur, un peu trop blanc, riche et préhistorique. Mmh. Ça cause des problèmes, ça, dans une société moderne aujourd'hui, Patrick. Et on l'a vu quand ils ont mis sur la liste noire Colin Kaepernick, qui était littéralement en 2014-15 à peu près au Super Bowl avec les 49ers, qui était encore dans la fleur de l'âge pour jouer. Et on a mis un X sur sa carrière, qui était inacceptable. Et aujourd'hui, celui qui avait raison derrière tout ça, c'était Colin Kaepernick.
Et oui, parce que là, on voit à quel point il a été précurseur. Es-tu surpris, Ray, de voir autant de sportifs, de sportives s'impliquer, dénoncer, faire des sorties publiques? Moi, je n'ai pas souvenir de voir autant de sportifs, sportives de mon vivant là, faire des sorties comme ça pour des trucs qui ne concernent pas le sport.
T'as raison, Patrick. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai étudié aux États-Unis, j'ai travaillé aux États-Unis. Je suis un gros, gros fan des États-Unis pour toutes les bonnes raisons.
Oui.
Je déplore certaines choses qui se produisent là-bas comme celle-ci. De l'injustice sociale, de la discrimination, il y en a un peu partout, puis il y en a toujours 10 fois plus aux États-Unis, c'est parce qu'il y a 10 fois plus de monde qu'au Canada. Mm. Mais c'est la première fois que c'est unanime que toutes les origines, toutes les groupes ethniques, toutes les races, tous les genres, tous les âges de gens s'impliquent, que les athlètes, l'autre jour, dans la rue, Steph Curry et Klay Thompson des Warriors, dans la rue eux-mêmes, on voit des joueurs se prononcer, les athlètes s'impliquent, dans le monde entier, on est derrière George Floyd et la tragédie. Et c'est la première fois que je le vois de façon aussi bien contrôlée. Tu sais, tu vas me dire qu'il y a de la violence, il y a des casseurs. Mmh.
Mais c'est largement pacifique.
Ah oh, ouais, ça s'est très bien déroulé. Mais c'est 10 jours de temps et c'est sans arrêt. On pointe tout vers la Maison-Blanche. J'entrerai pas dans politique, mais on sait quand un leader qui divise, forcément les gens réagissent à un certain moment. Et on atteint ce qu'on appelle en anglais, Patrick, le tipping point. Et là, soudainement, ça déborde. Mais c'est la première fois que je vois ça dans ma vie. Puis je suis ça de très près.
C'est fascinant. Merci beaucoup, Ray.
Salut, Patrick. Bonne soirée. Week-end. Merci.
Ray Lalonde, notre analyste ici en sport business, ancien cadre de la NBA, aussi travaillé pour le Canadien de Montréal. 18h33, petite pause. Merci d'être là. On se dirige lentement, mais sûrement vers la fin de l'émission. Et la nutritionniste Geneviève Augleman est avec nous tout de suite après la pause.